Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité est faite de jour J, on vous la raconte chaque soir sur RTL. Ce soir, des histoires sordides et un fiasco judiciaire. Merci d'être fidèle à jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast.
Les accusés sont là, on les a tous dans la salle, donc on se retourne, on les regarde les uns et les autres. Ah oui, c'était le chauffeur de taxi, c'est lui. Donc c'est lui qui a conduit les enfants à la ferme en Belgique avec Badawi qui venait. La boulangère qui mettait des baguettes dans l'anus des enfants, c'est elle. Et non, mais c'est ça. Soit on les regarde comme des innocents, soit on les regarde comme des pédophiles. Donc les juges, quand ils voient Madame Marico, ils la regardent et disent « Bon, est-ce que tu crois qu'elle allait chez Badawi sodomiser les gosses ?» Parce que le curé, il a fait enterrer une gamine dans son jardin, là, lui. Bon, et donc tout ça, ils sont tous réunis. Et puis au milieu, trône Badawi.
C'est une affaire qui a meurtri tout un pays, ravagé des familles, fauché des vies. Une affaire sordide qui donne la nausée et qui a nourri les médias pendant de longues années entre accusations, déclarations et mensonges. Outreau, c'est aussi l'histoire d'un emballement judiciaire, une spirale infernale, une bulle d'affabulations écœurantes qui va grossir et finir un jour par éclater. 17 adultes mis en accusation, 13 innocentés, 14 enfants, un suicide, une tragédie. Elodie Polo-Ackermann et Jean-Paul Géronimi, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Soyez les bienvenus sur RTL, merci d'être les invités de jour J. Vous êtes les producteurs de la série documentaire Outreau, un cauchemar français, disponible sur Netflix depuis vendredi dernier. Je n'avais pas oublié cette histoire et pourtant, elle est tellement tentaculaire. Il y a tellement de détails, comme vous le disiez il y a un instant en antenne, Elodie Polo-Ackermann, le diable se cache dans les détails dans cette histoire, que j'avoue avoir retrouvé en regardant ce documentaire les mêmes sensations qu'à l'époque, et pourtant c'était il y a 24 ans. Dans les histoires qui ont sidéré, qui ont pétrifié la France, Outreau tient une place quand même particulière, non ?
Absolument, c'est une des histoires marquantes, un monument des affaires de justice française, et c'est la raison pour laquelle on s'y est intéressé. Et par rapport au trauma que ça a laissé sur la France tout entière, évidemment ses acteurs, les victimes, etc., c'est ça qu'on est allé chercher et qui nous a donné envie de tout déplier depuis le début.
Jean-Paul Géronimi, qu'est-ce que vous aviez en mémoire, vous, de cette histoire ?
Exactement, ce traumatisme en fait un peu général, et en fait oui, il y avait une vraie volonté de s'inscrire dans un temps long, donc 4 épisodes de plus de 40 minutes pour déplier cette histoire qui est effectivement tentaculaire.
Mais est-ce que vous l'avez retrouvé cette histoire ? Est-ce que vous avez découvert des choses en vous penchant dessus ? Parce que on a souvenir d'un traumatisme qu'on a tous vécu aussi par ricochet, mais moi j'ai retrouvé tellement de choses que j'avais oubliées. Est-ce que vous avez eu, vous, le sentiment de revivre une sorte d'Outreau en le préparant ?
En fait, au début, quand on s'est lancé sur ce projet, en fait, on a interrogé un peu notre entourage de quel souvenir laissait cette histoire. Et en fait, il se trouve qu'effectivement, elle avait marqué, c'est-à-dire tout le monde pouvait dire qu'il se souvenait de cette histoire, mais précisément, non. Donc il y avait un enjeu pour nous, un intérêt à re-rentrer et à essayer de réexplorer effectivement cette histoire sur le long terme.
Et ce ressenti que vous décrivez, cette façon d'être immergé, c'est ce qui est à l'œuvre quand on travaille sur ce type d'affaires absolument gigantesque, vertigineuse.
Ça a duré combien de temps ?
Un long. Alors le temps de travail, c'est 3 ans en tout, avec une dizaine de mois d'enquête extrêmement approfondie. Le dossier de justice, le dossier d'instruction comporte des milliers de pages. Il faut s'y plonger pas à pas, un peu comme des archéologues d'un grand fait de justice, par le début, en interrogeant tous les acteurs.
Alors justement, il y a des jeunes qui nous écoutent et qui ont peut-être entendu parler de l'affaire d'Outreau, mais ne la connaissent pas. Lequel des deux s'y colle pour essayer de la raconter, allez, de façon générale ?
De manière générale ?
Allez, c'est Jean-Paul.
Pas évident. Eh
ben,
pas évident.
Je peux dire la première phrase.
Alors allez-y.
Ça commence au début des années 2000.
Très bien, alors maintenant débrouillez-vous,
non,
Jean-Paul Géronimi. On a une heure pour en parler, mais ça commence où ?
Non, de manière générale, c'est une histoire qui commence dans le nord de la France, à Outreau, une petite ville, près de Boulogne-sur-Mer, dans une petite cité HLM, mais on n'est pas sur le cliché de la cité, c'est des petits bâtiments, des petites tours avec des espaces verts.
Alors, ne rentrez pas trop dans les détails, parce qu'on a toute l'émission pour en parler.
C'est vrai.
Mais c'est quoi, c'est l'histoire d'enfants qui accusent.
C'est vrai, c'est dur.
Ouais.
C'est l'histoire d'une petite affaire qui part d'un appartement et d'enfants qui accusent leurs parents de faits gravissimes, sexuels, et qui va devenir une affaire hors norme où plusieurs adultes et plusieurs enfants vont être impliqués et donc qui va arriver au sommet de l'État, qui va devenir
un scandale et un fiasco judiciaire.
Ouais.
Alors, vous avez produit cette mini-série, elle vient de sortir sur Netflix, elle raconte cette histoire ô combien complexe justement, mais de surcroît, elle donne la parole à certains protagonistes dont on aurait pu se dire qu'ils n'en parleraient plus jamais. Et là, je pense forcément au juge Burgot. C'est l'un des grands personnages de cette histoire, tenu pour responsable de ce fiasco, on y reviendra. Comment est-ce que vous l'avez convaincu, Élodie ?
Alors déjà, parce qu'on a l'habitude et une expertise, une expérience avec Jean-Paul et avec toute l'équipe de traiter ce genre d'affaires et donc de les instruire énormément en amont. Donc quand on s'est présenté à l'avocat, en l'occurrence à Maître Maisonneuve, l'avocat du juge Burgot, c'est ça qu'on a établi. C'est notre façon, notre méthodologie, notre façon de travailler. Après, il était extrêmement courageux de la part du juge de, à nouveau, faire confiance alors qu'il a eu des torrents de boue médiatique sur lui autour de cette affaire. Et donc revenir 20 ans plus tard dans le détail et sur le temps long, c'était un véritable enjeu.
Donc ça a été difficile, il vous a dit oui tout de suite ou il a fallu vraiment des mois pour le convaincre ?
Il y a eu beaucoup de travail en amont, beaucoup de discussions autour de l'affaire, d'approfondissement, de la connaissance, de sa perspective. Ce qui nous intéressait, c'était de vraiment comprendre dans quel état d'esprit, dans quelle démarche il avait travaillé sur cette histoire et ce qu'il en ressentait encore aujourd'hui.
On va se retrouver dans un instant. L'affaire Doutroux est à la une de Jour J ce soir. Elle est disponible depuis vendredi sur Netflix. L'affaire Doutroux ou comment une ville du Nord a porté à jamais le nom du scandale et de la pédophilie. C'est tout de suite avec vous dans Jour J.
Flavie Flamand sur RTL. Jour J.
Cette écœurante affaire de pédophilie à Boulogne-sur-Mer où plusieurs enfants d'une même famille étaient prostitués par leurs parents. Ce soir, 6 personnes ont été mises en examen et incarcérées.
Nous sommes le 16 novembre 2001. Le grand public découvre ce qui va devenir l'affaire Doutroux au journal de Béatrice Schoenberg sur France 2. Une affaire qui va alimenter les médias et la nausée d'un pays tout entier pendant plusieurs années. Élodie Polo-Ackermann et Jean-Paul Gironimi, vous êtes les invités de Jour J ce soir et vous êtes les producteurs de la série documentaire Doutroux, un cauchemar français sur Netflix depuis vendredi. Ça a commencé comme ça. Une sordide affaire de prostitution familiale. On va planter le décor. On est à Doutroux, résidence des maires, dans le quartier de la Tour du Renard. Qui est cette famille dont on parle, Jean-Paul Gironimi ?
Myriam Badawi et Thierry Delay, c'est un couple. Elle a un parcours cabossé. C'est une masse, quelqu'un de très taciturne, qui est décrit comme très violent, qui fait peur dans le voisinage. Myriam Badawi, elle est décrite comme quelqu'un qui est assez protectrice avec ses enfants. En tout cas, c'est un couple qui vit dans une grande précarité. Il y a de l'alcoolisme, il y a de la pornographie.
La pornographie qui est au centre du salon et de la vie familiale.
Exactement. En fait, Thierry Delay, ça c'est lors de la perquisition qu'on va découvrir une collection de cassettes pornographiques ahurissantes, plus d'une centaine.
Des qui tournent en boucle.
Ça c'est ce que les enfants déclareront. Et effectivement, ils vivent dans une ambiance de violence et de sexualité, enfin de pornographie.
Ils ont des enfants, ils en ont 4, hein, 4 fils, c'est ça Élodie ?
4 fils. On découvre cette famille à travers les yeux, et c'est ça qui est bouleversant, du témoignage de Jonathan Delay, qui à l'époque, quand l'affaire commence, pour être précis, il a
5 ans.
Et c'est vrai qu'il décrit son père, sa mère, ce lieu, et ces mots, les mots qu'il emploie, même à distance, nous replongent dans le sordide de cet univers familial fait de violence, de peur, son père qui met un masque pour effrayer les enfants en pleine nuit, enfin, on revit ces scènes de cauchemar, véritablement. C'est ça le climat.
Sur le même palier, il y a un couple, plus jeune que les Delay Badawi, Delvide Delplanque et Aurélie Grenon. Qui sont-ils, Jean-Paul ?
Mais c'est un couple de voisins, beaucoup plus jeune que le couple Badawi-Delay, et qui fréquente les Badawi-Delay. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez notable, et qui est, il n'y a pas de rapport comme ça à proprement parler. Physiquement, ils sont plus jeunes, ils sont plus beaux, et pourtant, en fait, ils vont se fréquenter, voilà, dans une ambiance toujours pareille, d'alcool, de soirée. en fait.
Alors, ça c'est on va dire l'étage. Hein. On a Badawi Delay et on a Aurélie Grenon et David Delplanque. A priori, ils n'ont aucun point commun, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Et pourtant, ils se fréquentent. Mais ce que l'on a entendu là au journal de Béatrice Schoenberg, c'est pas simplement qu'ils se fréquentent, quoi. C'est qu'il se passe des choses derrière les portes de cet appartement qui sont absolument sordides.
Là, c'est ce qu'on découvre. Et d'ailleurs, c'est intéressant de rappeler, parce qu'on décrit cette tour, ces paliers, ouais. Qu'on voit d'ailleurs hein, dans les images d'archives. C'est vrai que l'histoire commence par le biais de la déposition de Myriam Badawi qui fait état d'une situation de violence sur ses propres enfants. Et c'est comme ça que le dossier arrive.
Mais qu'est-ce qui est censé se passer dans cet appartement ? Qu'est-ce que dit Myriam Badawi Myriam et qu'est-ce Badawi, que disent les enfants ?
Voilà. Myriam Badawi, au juge Burgot, elle va raconter effectivement que dans cet appartement, ils commettent des crimes sexuels, ils violent leurs enfants. Voilà, elle va accuser son mari, mais elle va aussi s'accuser, dire qu'elle est incestueuse. Et elle va accuser d'autres personnes, dont Aurélie Grenon et David Delplanque. Et donc, elle va décrire ce qu'il se passe dans cet appartement, c'est-à-dire que des gens viennent, ils font des soirées, des espèces d'orgies, et contre de l'argent, ils monnaient le service sexuel de leurs enfants.
Voilà, quatre pauvres petits garçons, victimes des parents, victimes d'autres adultes. On est donc le 16 novembre 2001, quand on en parle pour la première fois dans les médias nationaux, à travers ce journal de Béatrice Schoenberg. Trois jours seulement plus tard, Élise Lucet sur France 3.
On parlait au départ d'une affaire de pédophilie familiale, mais l'enquête pourrait aller beaucoup plus loin. À Outreau, près de Boulogne-sur-Mer, 6 enfants ont été abusés et 12 adultes ont d'ores et déjà été interpellés. En fait, le nombre de victimes pourrait s'élever à 30 et l'on s'attend à de nouvelles arrestations.
Voilà, la machine d'Outreau est donc lancée, déjà hors de contrôle. On en parle ce soir avec vous. L'affaire d'Outreau et ses premiers mensonges, c'est tout de suite dans Jour J.
Mon rôle était de rechercher la vérité, ce qui s'était passé. Interroger utilement les enfants, c'est quelque chose de très particulier. Et parfois, les mots qu'ils utilisent ne sont pas les mots qu'utilisera un adulte.
Voilà, vous venez d'entendre le juge Burgot au centre de l'affaire Outreau est tenu responsable depuis d'un des plus grands fiascos judiciaires français. Ceux qui ont connu cette épouvantable affaire qui a sidéré le pays au début des années 2000 se souviennent. Et puis les autres, eh bien trop jeunes pour cela, ils la découvriront cette affaire dans la série doc de Netflix passionnante et très complète Outreau, un cauchemar français dont les producteurs, Élodie Polo-Ackermann et Jean-Paul Géronimi sont nos invités ce soir. On s'est quitté il y a un instant sur l'affaire je dirais, qui tout à coup est lancé, qui va devenir incontrôlable. Au départ, quatre petits garçons violés par leurs parents et par d'autres adultes, dont un couple de voisins. Et puis très vite, à Outreau, la liste des victimes et des agresseurs va s'allonger à une vitesse absolument vertigineuse. Comment on peut expliquer dans les grandes lignes, Jean-Paul Géronimi, ce qu'il s'est passé et la façon finalement dont cette histoire a pris de l'ampleur, c'est à la vitesse d'une traînée de poudre.
Oui, le juge Burgot, quand il instruit cette affaire, en fait, il va de découverte en découverte et en fait, à chaque fois qu'il y a des nouvelles interpellations, il y a des nouveaux interrogatoires qui vont donner lieu à des nouvelles révélations et à des nouveaux noms qui vont venir compléter une liste qui est effectivement s'étoffe de jour en jour. Et en parallèle, il y a les enfants qui sont placés aussi dans des familles d'accueil et qui, eux aussi, vont se mettre à parler à leur tata de personnes qui leur aurait infligé des sévices sexuels aussi. Donc en fait, c'est l'ensemble de ces protagonistes qui grossit de jour en jour.
D'accord.
Et qui fait que...
Ces enfants qui sont placés, en fait, là vous parlez des fils du couple Badawi-Delay.
Pas que.
Puis voilà. Progressivement, les fils des autres accusés.
Donc exactement. Ça veut dire, les enfants Badawi-Delay vont commencer à parler au juge. En fait, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, à un moment donné, comment ça peut se propager, quoi. Le juge entend des noms, du coup, reçoit les accusés, interroge les enfants, qui eux-mêmes
tirent les fils, en fait. Il est horrifié par les paroles qu'il entend, et donc de nom en nom, le dossier va grossir.
Avec des enfants qui parlent d'histoires absolument sordides.
Atroces.
Mais où est-ce qu'ils
de sévices à peine lisibles d'ailleurs.
Oui, c'est insoutenable. Comment enfants. Ça se passe en fait? Ces enfants, à un moment donné, ils sont face à un juge et ils disent bah voilà. Et en plus, ce sont des paroles d'enfants. Donc il m'a fait des manières, il m'a mis sa chose dedans. Enfin, voilà, la façon qu'ont les enfants de parler doit être reçue avec énormément de.
Précaution.
De précaution et d'attention, parce que c'est la parole des enfants.
Les enfants sont d'abord entendus par les services de police, puis le juge Burgot va diligenter aussi des experts. pour prendre en compte leur témoignage, vérifier, c'est toute la question, la crédibilité ou pas de leur dire. Mais effectivement, la parole des enfants, elle est au cœur de l'affaire Doutreau.
Et justement, cette parole des enfants, on va remettre les choses dans leur contexte, on est il y a 24 ans. Cette parole des enfants, elle est accueillie comment à cette époque-là, Élodie ?
Il est très difficile de prendre la mesure du trauma dont ces enfants sont victimes à cette époque. Et peu de dispositifs sont mis en place. Contrairement à aujourd'hui où les choses ont quand même évolué, notamment avec ces dernières années, ces derniers mois. Et donc, les enfants parlent et reparlent, vont de déposition en déposition. Et donc, il y a nécessairement une parole qui est très fragile et qui est la parole d'enfants très jeunes, traumatisés soit par leur vécu d'expérience de violence intrafamiliale, soit pire, soit le simple traumatisme de se retrouver dans un bureau face à un adulte qui commence un interrogatoire sur ce type de sujet. Enfin voilà, les mesures dans le cadre d'Outreau ne sont pas mises en place pour respecter cette fragilité de la parole d'un enfant.
Et effectivement, c'est une histoire qui fera date aussi, d'un point de vue judiciaire, sur la confiance que l'on peut avoir dans la parole d'un enfant. Il se trouve qu'à ce moment-là, le juge Burgot, et on l'entend dans votre documentaire, n'a qu'une obsession, c'est croire à ces enfants qui parlent. Ils sont nombreux. Qui accuse-t-il ? Voilà, parce qu'on est parti donc de deux couples qui sont des parents incestueux, un couple pédophile qui a avoué ses crimes. Mais après, on se rend compte que c'est quand même une partie de la population d'Outreau qui est concernée. Et on a le sentiment que naît sous nos yeux, ou en tout cas se découvre aux yeux du monde, un réseau pédophile hyper organisé. Qui sont ceux qui sont accusés par les enfants, Jean-Paul ?
Alors, dans le dossier, il y a effectivement les enfants qui accusent, mais il y a aussi beaucoup les adultes. C'est-à-dire que l'instruction du juge Burgot, elle se base sur la corrélation, on va dire, de paroles d'adultes versus des paroles d'enfants. Et c'est ça qui va faire qu'il va mettre un certain nombre de personnes en accusation. Et donc, qui sont ces gens qu'ils accusent ? Notamment, il y a ces gens qu'on a appelés des notables, mais un peu de manière exagérée. Mais dans le lot, effectivement, il y a un taxi qui vient régulièrement à la Tour du Renard. Il y a une boulangère qui vient vendre des viennoiseries aussi, une boulangère ambulante. Il y a un couple d'huissiers, plus surprenant, qui habite à quelques kilomètres de la Tour du Renard et qui a priori n'a aucun lien avec cette histoire. C'est ça aussi qui fait qu'on se pose des questions. Et le juge, en enquêtant, va découvrir qu'effectivement, ils sont liés par une affaire de surendettement, notamment au couple. Donc, en fait, l'instruction se déploie, les accusations avancent, mais c'est vrai qu'elles sont de plus en plus énormes. Les avocats disent à un moment, ils ont pensé que toute la ville allait être mise en examen. Enfin, voilà, il y avait quand même quelque chose de...
Et ils procèdent à la façon d'un enquêteur. Donc, tous les faisceaux d'indices possibles doivent être examinés sous toutes leurs formes.
En sachant, pardon, que c'est quand même des affaires qui sont basées entièrement sur la parole. Il n'y a pas, dans le cas d'Outreau, de preuves matérielles. Donc, on est sur parole contre parole.
Et parole contre parole, qu'est-ce que les accusés, justement, répondent quand on vient les voir et qu'on leur dit « Bon, maintenant, vous venez parce que vous êtes accusés de viol sur mineurs, de faire partie d'un réseau pédophile. »
C'est difficile de généraliser les accusés.
Mais
on voit dans la série Odile Maréco qui raconte le jour de son interpellation aux Aurores, débarque avec le juge est là d'ailleurs, en présence du juge, très tôt le matin, il réveille les enfants, enfin, et elle raconte le traumatisme et sa sidération totale, son incompréhension, et évidemment, elle crie son innocence, elle ne peut pas croire cette scène.
Voilà, il n'y en a pas un sur le moment quand il est arrêté qui baisse les yeux en disant « Oui, effectivement, je suis pris la main dans le sac et effectivement, je fais partie de ce réseau ». Ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là qui sont accusés, dont on comprendra plus tard qu'ils sont accusés à tort, clament leur innocence. De rebondissement en rebondissement, l'affaire Doutreau va faire la une de l'information. Et derrière tout cela, il y a une femme, celle par qui tout a commencé et qui bénéficie de l'écoute particulière du juge Burgot. Cette femme, c'est Myriam Badawi. Elle est au centre de tout.
Nous, on ne cessait de dire, et je continue à dire, que le dossier Doutreau, c'est la croyance d'un juge dans une criminelle qui a violé ses enfants.
Vous venez d'entendre l'avocat Franck Berton. La relation Badawi-Burgot, on vous l'explique tout de suite dans Jour J.
Badawi, elle a cette espèce d'instinct, presque animal, vous voyez. Et c'est pas péjoratif, mais elle sent. Elle sent ce qu'elle doit dire et elle sentait en particulier ce qu'elle devait dire ou pouvait dire à M. Burgot pour le séduire, etc.
Celle que vous venez d'entendre s'appelle Fabienne Roy-Nancion. Elle est avocate dans l'affaire Doutreau et elle a accepté de témoigner dans votre documentaire pour Netflix. Elodie Polo-Ackermann et Jean-Paul Géronimi, vous êtes nos invités. Jean-Paul Géronimi, est-ce que vous pouvez nous raconter cette relation si singulière qu'elle entretient, Myriam Badawi, avec le juge Burgot et qui sous-tend, je dirais, toute l'affaire Doutreau?
Bah, c'est une relation qui est décrite comme ambiguë par les avocats, notamment de la défense. Myriam Badawi, quand elle rentre dans l'affaire au début, elle nie les faits une première fois. Puis très vite, en fait, elle va se mettre à passer à table et à raconter dans le menu détail tout ce qui se passe dans son appartement, à faire de nombreuses déclarations. Et effectivement, le juge Burgot va en tout cas baser son instruction beaucoup sur ses déclarations pour aller ensuite l'étoffer avec d'autres déclarations.
Il est probablement impressionné par cette femme qui a de l'aplomb, qui est un personnage hors norme, qui raconte en effet des choses absolument horrifiantes. Et il ne faut pas oublier que le juge Burgot a 29 ans, ça fait 6 mois.
En termes d'expérience, on ne peut pas dire qu'il était vraiment rompu à l'exercice.
Mais comme tout magistrat, il vient d'arriver, enfin ça fait 6 mois qu'il est au tribunal de Boulogne-sur-Mer. Voilà, l'épaisseur humaine qu'il faut pour travailler ce genre de... et encaisser ce type de parole... Peut-être qu'elle elle fait défaut quand on commence.
Mais on se rend très vite compte que Myriam Badawi, elle le nourrit, en fait. Quand on écoute les avocats de la défense, c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la relation, je dirais, presque s'inverse, au dire de certains avocats. Et finalement, elle le nourrit, elle l'abreuve d'informations. Parfois, elle fait de la rétention. Parfois, d'elle-même, elle donne des informations qui s'avéreront être fausses. Enfin, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Cette relation, elle est extrêmement bien décrite dans votre série doc.
Effectivement, ambiguë à plein d'égards. Elle écrivait beaucoup au juge Burgot. Après, le juge Burgot, depuis la prison. Après, effectivement, les avocats de la défense ont décrit cette relation comme toxique, comme elle aurait eu de l'emprise sur le juge Burgot. Le juge Burgot, lui, s'en défend. Il dit qu'il a mené son instruction de manière, enfin, la tête froide et qu'il essayait justement de faire le tri dans ses déclarations qui étaient effectivement très exhaustives.
Il la recevait régulièrement?
Il la recevait à chaque fois qu'il jugeait que ces déclarations avaient un intérêt. Et à chaque fois, il essayait de vérifier ses dires par les autres accusateurs, notamment, qui se sont accumulés au cours de l'instruction.
Élodie, ce que disent aussi les avocats de la défense, c'est assez intéressant, c'est qu'elle faisait montre de plein de détails, elle faisait démonstration d'énormément de choses, la façon dont pouvaient être habillées les victimes, les intérieurs des uns et des autres. Enfin bon, ça, on le découvrira dans le documentaire. Donc, ça veut dire qu'elle livrait, en fait, des informations qui semblaient capitales pour faire avancer ce fameux dossier, cette enquête sur un réseau pédophile. Mais par ailleurs, elle n'était pas forcément capable de répondre à d'autres questions ou certaines questions ne lui étaient pas posées non plus. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, après coup, 24 ans après, que cette femme, elle livrait des infos, mais qu'elle aurait pu être confrontée à d'autres questions qui auraient pu aussi permettre au juge de mettre en doute, finalement, ses paroles.
Je trouve que après coup, refaire le détail d'une instruction aussi complexe, on peut voir des tonnes de choses que d'autres personnes auraient fait différemment.
Sur le moment, certainement pas.
Voilà, exactement. Et je pense qu'il y a une dimension, un facteur humain qui est inhérent, et a fortiori dans ce genre d'histoire, qui participe. L'instruction n'est pas faite par une machine ou une intelligence artificielle, et c'est bien là la difficulté qui est au cœur de la justice, de manière générale, et ce qui fait sa beauté aussi, enfin, du travail. Ce qu'on veut faire ressentir en ayant, justement, vous le soulignez tout à l'heure, le témoignage de Fabrice Burgot, c'est d'essayer de comprendre, lui, sa façon de travailler, son ressenti à distance et comment il nous restitue aujourd'hui, 20 ans après, la façon dont il a mené cette enquête.
Et est-ce qu'il avait l'air de ressentir quelque chose de singulier quand il parlait de Myriam Badawi? Il s'est toujours défendu, finalement, d'avoir été sous son emprise,
oui,
Jean-Paul Géronimi?
Lui, pour lui, c'est ce qu'avance la défense, en fait. Lui considère qu'il a fait les choses de manière...
méthodique, pragmatique.
Il est décrit par les gens qui le connaissent comme quelqu'un, certes, qui vient d'arriver, mais c'est sa première grosse affaire, mais d'extrêmement consciencieux, rigoureux,
très bosseur,
etc.
Mais il a organisé aussi des confrontations accusations qui ont été énormément décriées, où effectivement, Myriam n'étant pas seule accusatrice, il y a une force, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui est là et qui est potentiellement accusé de faits gravissimes, en face d'eux, il n'avait pas que Myriam Badawi, il avait aussi deux autres accusateurs. Donc c'est l'ensemble de... Donc c'est pour ça que c'est des fois peut-être un peu réducteur de parler juste de la relation. Il y avait aussi les autres accusateurs qui ont joué très très fortement dans le fait de garder des gens en détention provisoire.
Enfin, voilà, et de l'appréciation donc du juge Burgot, c'est-à-dire qu'il n'avait pas que cette femme, mais il avait un ensemble d'accusateurs qui faisaient que forcément, il y avait des faisceaux comme ça qui se rejoignaient. Un jour, l'affaire Dutroux, elle va passer la frontière et elle va nous emmener en Belgique où le nom de Dutroux a déjà choqué le pays tout entier. On se retrouve tout de suite dans Jour J.
Et puis peut-être cette fois une autre affaire de pédophilie dramatique, sans doute liée au dossier Dutroux dans le Nord, Pas-de-Calais, en 1999. Cette fois dans la région de Lille, le fils d'un patron de sex shop a confirmé devant le juge d'instruction qu'il aurait assisté à une soirée spéciale où une petite fille aurait été battue à mort.
Après les viols dans des conditions indicibles, le meurtre d'une petite fille, l'affaire Dutroux semble entrer dans une nouvelle dimension de l'horreur. Cette affaire Dutroux, vous pouvez la découvrir en 4 épisodes sur Netflix depuis vendredi. Dutroux, le cauchemar français. Effectivement, c'est un cauchemar qu'on essaye de retranscrire ce soir avec nos invités, qui sont les producteurs donc de cette série documentaire, Élodie Polo-Ackermann et Jean-Paul Géronimi. Cette petite fille-là dont on parle, dont on dit qu'elle est battue à mort, qu'elle a été enterrée dans un jardin. Enfin, je laisserai les auditeurs regarder le doc. Mais là, on bascule encore dans une autre dimension, Jean-Paul.
Oui, c'est un point de bascule énorme parce qu'effectivement, non seulement jusque-là, on a trois accusateurs principaux et donc d'un seul coup, on a là un quatrième accusateur qui vient se rajouter, qui est Daniel Legrand-Fils, et qui effectivement, dans cette lettre spontanée qu'il va envoyer à France 3 à Nord-Pas-de-Calais, s'accuse et décrit le meurtre d'une petite fille dans cet appartement de la Tour d'Urnard. Et effectivement, c'est une déflagration parce que le juge Burgot donc, va prendre ses aveux et va convoquer Myriam Badawi pour lui demander aussi sa version. Il va lui lire cette lettre et elle va corroborer les dires de Daniel Legrand-Fils. Et donc, effectivement, à partir de là, des fouilles sont diligentées dans les jardins ouvriers devant la Tour d'Urnard. Et la France entière, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont encore ce souvenir très fort, est suspendue comme ça à
des images d'informations qui sont dingues.
Ouais, qui sont dingues et qui surtout nous laissent entrevoir potentiellement quelque chose de pire, en fait. Si on retrouve le corps de cette petite fille, alors on sombre littéralement dans l'affaire la plus sordide que la France ait connue.
Quand je dis qu'effectivement, et vous avez raison, on est suspendu à des images dingues, c'est-à-dire qu'on le voit dans le documentaire, des badauds, les médias, qui sont la presse exactement, parce que ça a quand même été une affaire extrêmement médiatisée, parce que qui a nourri les médias pendant des années, avec effectivement des bâches, et derrière les bâches, des pelleteuses que l'on voit à l'œuvre avec la probabilité que cette pelleteuse ressorte le corps d'une petite fille, que Myriam Badawi aussi a particulièrement décrite, ses vêtements. Enfin bon, c'est quand même un truc tellement compliqué à retranscrire. Et ce corps, en fait, on va jamais le retrouver, Elodie.
Non. Des jours durant, donc des pelleteuses vont creuser, des journalistes s'amasser pour essayer de glaner le moindre scoop et pas de cadavre. Donc évidemment, à nouveau, face à une énigme, une incapacité de prouver les dires et on verra par la suite que ça engendrera d'autres rebondissements.
Est-ce que l'on peut dire à ce moment-là, alors je vous demande votre point de vue à l'un et à l'autre, mais est-ce que l'on peut dire qu'à ce moment-là, plus personne ne contrôle plus rien dans l'affaire Dutroux? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Elodie? On va d'accusation en accusation, il y a une surenchère dans le drame, dans le sordide, et à chaque fois, cette parole, elle est reçue, elle est traitée par les médias, le juge Burgot s'en empare, enfin, voilà, il y a l'instruction qui continue, enfin, c'est...
Je pense que dans la perception de cette... si on peut appeler emballement médiatique, donc avec ouais. cette recherche d'images, ces articles. D'ailleurs, on a des témoignages de journalistes qui étaient là sur place et qui racontent leur ressenti de cet événement. Mais l'enquête est en contrôle. C'est exactement ce qu'elle fait, ce qu'elle mène. Enfin, il y a un contrôle de la justice, le juge qui travaille. Enfin, voilà, on est dans une période clé qui va précéder un procès. Donc, on peut pas dire qu'il y a pas de contrôle.
Mais c'est un, oui, c'est un moment effectivement charnière, je pense, médiatiquement avant tout,
okay.
Parce que il rajoute une couche d'horreur à l'horreur, et donc il y a à ce moment-là, effectivement, je pense que l'affaire d'Outreau, on arrive un peu à un climax, voilà.
Vous savez, en fait, quand on regarde la série, on se dit mais ça n'en finit pas. On a le sentiment que ça ne va jamais s'arrêter et que on va d'horreur en horreur. Est-ce qu'à un moment donné, le doute aussi commence à s'installer? Parce que au moment où on se parle là, il y a quand même des adultes qui sont accusés, des enfants qui accusent, certains adultes, on le découvre dans le documentaire, qui avouent et puis qui tout à coup se rétractent, d'autres qui clament leur innocence. Enfin, est-ce que le doute commence à s'installer quelque part ou est-ce qu'on est toujours sur les mêmes certitudes?
Non, le doute commence à s'installer, notamment chez les avocats de la défense.
De la défense.
Exactement. Qui, eux, demandent la liberté de leurs clients.
Parce que, en fait, les clients sont incarcérés.
En détention
provisoire.
Exactement. Et donc, eux mettent en doute l'instruction du juge Burgot.
Voilà. Ils le disent, hein, il aurait dû être dessaisi de l'affaire.
Exactement. Ils demandent son dessaisissement. Et ils essayent de pointer à ce moment-là ce qu'ils considèrent, eux, comme des anomalies de l'instruction,
des
incohérences dans les déclarations des uns et des autres. Voilà.
En fait, ils décident à un moment donné tous de tout reprendre, quasiment à zéro, et ils passent des nuits à se brûler les yeux sur des dépositions, à les comparer, et là, ils se rendent compte qu'il y a des trucs qui ne collent pas. C'est ça, Élodie.
Tout n'est pas blanc ou noir.
Non.
Et donc, en effet, ils sont en train de travailler pour essayer de mettre en lien, exactement, de trouver les incohérences du dossier et de remettre en question un certain nombre d'éléments aussi véhiculés par la presse. Donc, on sait aussi, par des simplifications, par des titres, etc., qu'il y a cet emballement qui est là et qui participe d'une affaire qui devient monstrueuse.
On va se retrouver dans un instant parce que viendra donc l'heure du procès. Il va débuter sous très haute tension en mai 2004. Et puis, quelques jours après, coup de théâtre et l'affaire bascule dans un tout autre registre. À tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Comme il est compliqué de relater cette affaire d'Outreau, c'est la raison pour laquelle je vous invite à découvrir, si vous ne la connaissez pas, vous êtes peut-être trop jeune parce qu'elle date du début des années 2000, découvrir donc cette série documentaire sur Netflix dont les producteurs sont notre invité. Bien évidemment, on n'aura pas pu rentrer dans tous les détails, bien évidemment, on n'aura pas pu raconter toutes les subtilités, bien évidemment, on a été un peu déloyaux par rapport à certains détails qui peuvent vous sembler importants, mais ce qui est essentiel aussi, c'est d'expliquer les choses à nos auditeurs en sachant qu'ils pourront en découvrir davantage à travers le documentaire. Le procès d'Outreau, il va débuter sous très haute tension en mai 2004, début du mois de mai. C'était un procès hyper attendu en fait, hein, Jean-Paul Géronimi, que la France attendait depuis des années.
Hyper attendu, il commence dans une extrême tension. Tension parce qu'il va se passer plusieurs mois.
Ouais.
Tension parce que, une tension médiatique, une tension parce qu'il y a énormément de protagonistes. Il faut savoir que le petit palais de justice de Saint-Omer n'était pas habilité à recevoir une affaire nationale.
De l'ampleur, ouais.
Donc, il y a vraiment énormément de monde. Tout le monde veut voir, effectivement, c'est une audience qui va être publique. On attend beaucoup aussi de la déclaration des enfants dont
on parle. Qui va se faire de façon publique.
Exactement.
Qui n'arrive en général jamais.
Ouais, normalement, c'est à huis clos. Mais
exactement.
Là, effectivement, il y a plus de 10 enfants.
Les enfants sont d'ailleurs dans le box des accusés parce que il y a
un réaménagement de la salle.
Exactement. Donc voilà, il commence avec beaucoup d'avocats de la défense qui sont prêts à en découdre et à faire exploser le dossier.
Voilà, et des avocats aussi illustres déjà.
Exactement.
Que le garde des Sceaux actuel, Éric Dupond-Moretti, Franck Berton, que l'on a entendu, et tant d'autres. Maître Delarue également. Alors qu'on croyait avoir tout vu, tout entendu, alors que sur le banc des accusés, certains avaient avoué, je le disais, d'autres s'étaient rétractés, que d'autres avaient crié leur innocence tout ce temps, coup de théâtre, un truc complètement inattendu. On écoute David Pujada s'en rendre compte sur France 2.
Actualité judiciaire maintenant, avec d'abord ce rebondissement dans le procès de l'affaire de pédophilie d'Outreau. Les deux mères de famille qui maintenaient jusque-là que l'ensemble des accusés avaient participé au viol viennent de se rétracter. Elles ont avoué avoir menti. C'est toute la physionomie de ce procès qui est en train de changer. La thèse du réseau de notables est mise à mal.
Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Paul Géronimi ?
C'est une scène ahurissante et qui est que lors de l'audition d'un des enfants de Myriam Badawi, qui est interrogé par un avocat, Myriam Badawi va craquer va se lever et va dire arrêtez de voilà de questionner mes enfants et va d'un seul coup disculper un à un tous les gens qu'elle accuse depuis de très nombreuses années et tous les protagonistes qui sont présents dans la salle à ce moment-là décrivent une scène de film absolument inouïe
où elle s'adresse à chacun d'entre eux, elle présente ses excuses, elle les innocente et c'est là que le procès va complètement basculer et l'histoire d'Outreau va basculer, mettant la justice aussi face à certaines responsabilités. Je voudrais que l'on écoute Karine Duchauchois, l'une des accusées d'Outreau, devenue victime donc de cette justice après avoir été innocentée et acquittée.
C'est fini.
C'est la fin d'un cauchemar.
Ça y est, c'est fini. Je vais pouvoir retrouver mon petit garçon. Ça fait 3 ans qu'on me l'a pris. Et j'avais rien fait. J'ai toujours dit que j'avais rien fait.
Voilà, effectivement, une réaction bouleversante de Karine Duchauchois qui dit aussi une vérité, c'est que ces accusés qui ont finalement été innocentés, ces accusés ont été séparés de leur famille, ont vu leur famille exploser. L'un des accusés a mis fin à ses jours aussi durant cette instruction. Enfin, ce sont tous les ravages aussi de cette affaire d'Outreau là, que l'on entend à travers le témoignage et la réaction de Karine Duchauchois.
La détresse, elle est perceptible dans le témoignage.
Que le soulagement.
Totalement. Et vous parliez du procès sous tension. On ne peut imaginer le calvaire des enfants qui sont aussi malmenés depuis des années, placés de famille en famille, des familles qui ont explosé, qui sont convoquées dans cet espace. Sentir ça, et avec ce retournement qui transforme le cours des choses à jamais, c'est évidemment extrêmement bouleversant.
Et ce que l'on découvre aussi à travers votre série doc, c'est la façon dont les mensonges se sont construits. C'est-à-dire que ça n'est pas que Myriam Badawi qui a menti, mais ce sont des enfants qui ont suivi aussi des choses qu'ils avaient entendues, qui ont relayé des informations. Enfin, c'est toute une histoire d'accusations, de fausses accusations qui est absolument tentaculaire et qu'on a essayé de raconter à nos auditeurs ce soir, mais qui découvriront dans le documentaire. Est-ce que la justice, rapidement, Jean-Paul Géronimi, a fait acte de contrition auprès des acquittés d'Outreau?
Oui, il y a un vrai point de bascule à ce moment-là dans le procès, même si le verdict n'est pas tombé à ce moment-là, mais il y a un vrai point de bascule médiatiquement. C'est-à-dire que jusqu'alors, les médias présentent ces personnes comme des monstres et la tendance va s'inverser. On va célébrer plutôt des innocents.
Dès le lendemain, d'ailleurs, oui.
Ouais, et donc, il y a un point de vue qui a changé, en tout cas médiatiquement. Et si la justice a reconnu, oui, enfin, ils ont été indemnisés. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire où ils ont été entendus. Ils ont été reçus pour certains à l'Élysée. Donc oui, au plus haut niveau de l'État, les acquittés ont été,
pris en considération.
Ouais.
Je laisse nos auditeurs découvrir ce documentaire. Je voudrais vous remercier parce que ça n'était pas simple de raconter cette histoire, mais vous le faites si bien. Avec votre équipe, vous vouliez revenir sur quatre auteurs qui ont travaillé avec vous?
Absolument. Quatre auteurs de cette série, Adakwa, Coronadar, Marika Mathieu et Camille Le Pomelec, qui ont fait un travail approfondi, formidable. Et c'est avant tout des aventures collectives.
Outreau, un cauchemar français, c'est à découvrir donc depuis vendredi sur Netflix. Merci à vous de vous être prêté à cet exercice. Merci à toute l'équipe. Équipe de Jour J, Céline Bonnet, Quentin Azoula, Bastien Robin et Marc Bisset. Et moi, je vous donne rendez-vous demain, 20h, pour un nouveau numéro de Jour J. Merci pour votre fidélité. À demain.